parler de saint Augustin et des donatistes. Le père Donadei, vous le connaissez, je pense, à peu près tous, puisqu'il est venu l'an dernier nous parler de saint Thomas, et il est aussi venu à la messe des Archicules cette année. Le père Donadei a fait sa thèse sur Lucain, illustre prédécesseur de Bénédicte, ici présent, et il travaille à la commission Léonine à Paris.
Voilà, tout près d'ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de votre invitation. Alors je ne sais pas quel est l'intérêt, les raisons de l'intérêt que vous avez manifesté pour, vous qui étudiez l'œuvre d'Augustin en aumônerie, pour les écrits composés dans la controverse antidonatiste. Mais cet intérêt, il faut bien le dire, rejoint celui de l'œcuménisme contemporain. Hein, c'est dans le sillage du renouveau œcuménique qu'on a redécouvert les textes d'Augustin, et dans la bibliothèque augustinienne, il y a une très célèbre préface du père Congar, qui était de mon couvent, et qui a écrit cette préface dans cette perspective œcuménique. Puisque c'est une des grandes affirmations d'Augustin, c'est que dans des communautés hérétiques ou schismatiques, il y a véritablement le baptême du Christ. Et donc il y a des biens qui sont conformes entre la communauté catholique et des communautés, entre l'Église catholique et des communautés séparées. Hein, donc c'est cela qui a constitué l'intérêt des traités antidonatistes pour l'œcuménisme contemporain. Ce n'est pas dans ce sens que je vais cependant les exploiter, mais ces œuvres, et spécialement le De Baptismo, sur lequel je vais essentiellement m'arrêter, ces œuvres, dis-je, marquent une étape importante dans l'élaboration de la doctrine sur l'Église et conjointement de la doctrine sur les sacrements. Et donc c'est très important dans l'histoire des doctrines. Et bien que cette doctrine ait connu ultérieurement des développements considérables jusqu'à la grande synthèse médiévale canonisée au Concile de Trente, bien que certaines positions d'Augustin aient été abandonnées, nous le verrons, cette pensée d'Augustin garde son actualité, sa profondeur et même son originalité par rapport au traité classique des sacrements. Je pense que cette originalité est dans la tension que saint Augustin distingue entre précisément un principe ecclésial, un principe qui concerne l'Église, et un principe proprement sacramentel. Tension actuelle, si tant est qu'elle a été menacée récemment, on en voit la trace dans les travaux préparatoires au Concile Vatican II, en particulier au chapitre 9 de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église, l'Église est définie comme un sacrement fondamental, et on a l'impression que les sept sacrements que nous connaissons sont un rejaillissement direct du mystère de l'Église comme sacrement fondamental. En fait, ce n'est pas cela, mais même s'il y a certains interprètes de cette constitution Lumen Gentium qui interprètent, disais-je, en ce sens, ce chapitre. Or, c'est faux. Les sacrements de l'Église échappent pour une part à l'Église elle-même, parce qu'ils sont non seulement les sacrements de l'Église, mais aussi les sacrements de Jésus-Christ. Et il conviendra évidemment d'articuler cette remarque avec une autre vérité, c'est à savoir que l'Église a tout en commun avec son divin époux. Voilà, donc mon exposé tendra à relever cette tension entre le principe ecclésial et le principe sacramentel. Je commencerai tout de même par une introduction historique sur cette crise donatiste qui n'est pas connue directement parce qu'on ne possède pas les écrits des schismatiques, des hérétiques, mais comme souvent dans ces controverses, on a accès au texte de l'adversaire qu'à travers des citations qui se trouvent chez les pères de l'Église. Donc, d'un point de vue critique, c'est un peu limite, mais tout de même. Ce qui est sûr, c'est que saint Augustin était rentré d'Italie dans son Afrique natale en 388. Ordonné prêtre en 391, il est aussitôt jeté dans cette bataille contre le donatisme. Cette hérésie ou ce schisme, c'est un schisme, c'est sûr, mais il y a des éléments hérétiques aussi, contre lequel le concile régional de Carthage en 393 avait résolu d'intensifier la riposte. Et cette controverse mobilisera une bonne part de la réflexion théologique d'Augustin, bientôt sacré évêque d'Hippone en 395. Et cela nous vaudra une série de traités dont la rédaction est régulière jusqu'en 405. En 405, une loi impériale proclama le donatisme comme hérétique. Et avec les conséquences qui s'ensuivaient alors, interdiction aux donatistes de se tenir réunions et cultes, saisie de leurs propriétés, menace de mort sur le clergé. Donc, pour Augustin, il n'était plus question de publier contre une communauté qui n'avait plus rien de public, parce que ça aurait été reconnaître une existence à cette communauté, alors que la police d'un État qui était devenu chrétien catholique niait son existence. Et Augustin, il faut bien le dire, selon des principes qui deviendront ceux de la chrétienté, a applaudi à cette répression. Ça a plutôt joué en faveur de sa proclamation comme saint. Donc, autre temps, autre mœurs. Quand Augustin est entré dans l'arène, le schisme perdurait et se fortifiait depuis quelque 80 ans. Et il avait même essaimé jusqu'à Rome, où il y avait un évêque donatiste. Il demeura toujours essentiellement un phénomène africain. Il cristallisait autour d'une question d'abord religieuse, la contestation des berbères contre la romanité. Et cet aspect ethnique a été évidemment relevé par les historiens modernes. Il n'y en a évidemment pas trace dans les écrits d'Augustin, lui-même berbère, que sa formation rhétorique mettait résolument du côté des élites romaines. Mais on conçoit bien que par son origine et par son histoire propre, saint Augustin pouvait aisément passer pour un traître à son peuple, ce qui ne facilitait pas son audience auprès des diocèses ruraux qui fournissaient l'essentiel des troupes au schisme donatiste. Et si l'on considère le schisme maintenant dans ses origines, le schisme eut pour occasion la répression venue, cette fois déjà, du pouvoir civil, qui intervenait dans les affaires religieuses. En 303, parvint en Numidie un édit de Dioclétien ordonnant qu'on livrât à sa police les livres saints et qu'il fût procédé au recensement des biens d'Église. Vous voyez, au début de notre XXe siècle, les suites de l'affaire des inventaires, hein, c'était ça. Alors, à l'époque, une partie importante du clergé catholique obéit. Mais parallèlement montait chez le peuple chrétien un mouvement de résistance, et ce mouvement eut des martyrs jusqu'à la fin de la persécution en 305. Cependant, Cécilien, qui était diacre de l'évêque de Carthage à l'époque et qui passait pour avoir livré des livres saints, eh bien, ce Cécilien fut élu en 312 par les évêques réunis en concile, avant que n'arrive leur collègue de Numidie, région qui avait été le principal foyer de résistance à l'édit impérial de 303. Et c'est cette élection de Cécilien qui a donné, en 312, lieu à ce schisme, qui s'est tout de suite organisé sous la grande autorité de Donna, qui était le contre-évêque de Carthage. Ces donatistes qui devaient tellement vitupérer contre l'alliance des catholiques avec César, avec le pouvoir impérial, firent justement d'abord appel de cette décision au jugement de César contre l'élection de Cécilien. En 312, on était à la veille de l'édit de Milan de 313, cet édit célèbre qui portait reconnaissance de la religion catholique comme religion licite. Et ça a été le début de la grande faveur que l'empereur Constantin, après sa victoire sur Maxence, devait marquer toujours à l'Église catholique, même en dépit de ses faveurs quand même très gênantes, à l'arianisme. Donc l'empereur ordonna la réunion d'un synode romain, et ce synode confirma l'élection de Cécilien. Les donatistes en appelèrent à l'empereur lui-même de cette décision du synode, et l'empereur Constantin rendit la même sentence en 316, avant d'ordonner la confiscation des édifices donatistes et l'exil des évêques donatistes. Et évidemment, avec des mesures comme ça, on ne fait qu'aviver l'esprit de résistance chez cette communauté qui était unie depuis le début dans le culte des martyrs. Les catholiques étant dans une alliance visible avec le pouvoir impérial, eh bien, cela n'était pas évidemment pour adoucir les sentiments des donatistes à leur égard. On ne recherchait pas d'ailleurs la réconciliation et la composition. Ces buts qui sont ceux de notre œcuménisme actuel étaient alors parfaitement étrangers à la foi de l'époque. Il fallait gagner des âmes à son parti, avec toute l'énergie que donne le salut quand il est un enjeu. On aurait pu croire que l'édit de tolérance de 321 allait sonner le reflux du nonatisme. Mais il s'était vraiment implanté dans les esprits. Et il n'arrêta pas ses progrès. Et ceci, d'ailleurs, ne trouvant plus d'obstacles. Des révoltes furent fomentées par les donatistes contre l'Empire devenu catholique. En 347, l'empereur Constance intervint par une nouvelle répression armée qui fit des morts. La fortune tourna évidemment pour les donatistes à l'avènement de Julien l'Apostat, dont le règne s'étend de 361 à 363. Et cet empereur rappela les évêques donatistes pour embarrasser les catholiques. C'était évident. Le donatisme devait lui-même se scinder en un schisme sur une querelle de personnes. Maximien, parent de Donat, fut élu contre Primien, contre évêque donatiste de Carthage. Et ce Maximien devait cependant rentrer dans la communion donatiste sans que l'on impose à ses partisans une rebaptisation, un nouveau baptême. Cette question de la rebaptisation, du rebaptême, on trouve toutes les, est très importante. Et c'est sur ce point-là que Augustin fait porter l'essentiel de sa controverse avec les donatistes. C'est l'expression la plus significative de leur esprit, de leur fierté d'être l'Église des purs dans la fidélité à leurs martyrs, mais aussi aux traditions locales propres à l'Église d'Afrique. Ils revendiquaient en effet pour eux l'héritage de Saint Cyprien, évêque de Carthage au siècle précédent, au milieu du siècle précédent. Les dates de Cyprien, c'est 200-258. Il est mort dans la persécution de Valérien. Or, lors d'un concile africain réuni par lui dans sa métropole de Carthage en 256, Cyprien s'était prononcé contre la coutume qui s'observait jusqu'alors d'admettre les hérétiques dans le sein de l'Église sans leur imposer un nouveau baptême, mais en les réconciliant simplement par le rite de l'imposition des mains. Donc les hérétiques repentis qui revenaient dans l'Église catholique, qui avaient été baptisés, dont on avait célébré le baptême chez les hérétiques ou les schismatiques, on ne leur imposait pas, jusqu'à Cyprien, de nouveaux baptêmes. Cyprien fait cesser cette coutume pour sa part. Mais il n'imposait pas d'ailleurs à ses confrères évêques d'observer la même discipline. Mais il est sûr que sur ce point, il s'est assez vivement opposé à l'évêque de Rome, Étienne, qui n'admettait pas qu'on rebaptise. C'était une époque où l'Église n'avait pas encore reconnu le magistère ordinaire du pape. Le pape, à l'époque, en plus de sa primauté d'honneur, était regardé comme une simple instance d'appel dans les conflits qu'on portait à son jugement. Le pape Étienne en avait du reste usé en cette histoire avec une grande hauteur à l'égard de Saint Cyprien. Et cela, le souvenir en restait, il était cuisant pour le régionalisme africain. Et bien sûr, les donatistes surent en tirer parti pour rallier à eux les gens du pays qui étaient hostiles à tout ce qui vient de Rome. Quelque chose de très classique. En tout cas, en imposant un baptême à ceux qui souhaitaient rejoindre la confession donatiste, les donatistes se montraient extérieurement, matériellement, fidèles imitateurs de Cyprien, méprisant d'ailleurs les décisions prises à cet égard par le Concile général de Nicée en 325, qui tient pour ferme la coutume promue par Étienne de préférer l'imposition des mains pour réconcilier les hérétiques plutôt que le baptême. Avec cette raison, déjà donnée par Étienne et sur laquelle nous reviendrons, que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne saurait être invoqué en vain, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en a donné l'ordre. Donc, comme je vous le disais au départ, j'ai choisi d'aborder les nombreux traités antidonatistes d'après le débaptismo, parce que le traité du baptême. daté de l'an 400. Je trouve que c'est, et ça a été reconnu comme tel, le plus riche et le plus représentatif, le meilleur résumé de la controverse donatiste de la part d'Augustin, parce que il a cette originalité de revendiquer, c'est quand même un tour de force, hein, contre les donatistes, l'héritage de Saint-Cyprien sur la question du baptême, alors que c'est Saint-Cyprien qui avait ordonné qu'on rebaptise, au moins dans son église. C'est Saint-Cyprien la figure tutélaire, hein, de l'église d'Afrique. Cela confère à ce traité des baptismaux une portée sans égale, parce que Saint-Cyprien, vous le savez sans doute, avait médité d'une manière profonde, hein, le mystère de l'Église, en particulier dans le De Unitate Catholicae Ecclesiae. La querelle sur la discipline du baptême permet à Saint-Augustin de développer conjointement, disais-je, la théologie des sacrements, dont la notion n'était pas encore la nôtre aujourd'hui, mais enfin la réalité était là, et d'autre part la théologie de l'Église, en la rapportant l'une à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Sans doute le concept de sacrement n'existait-il pas, disais-je, tel que nous le connaissons aujourd'hui, d'après la notion qu'en ont forgé les théologiens du XIIe siècle et dont nous héritons aujourd'hui. Mais une vue, certes confuse à nos yeux, de la chose se distinguait néanmoins. Et Saint-Cyprien établissait le baptême dans une stricte dépendance à l'Église. Les sacrements étaient sacrements du Christ dans la mesure où ils étaient les sacrements donnés par un ministre de la véritable Église et reçus dans l'Église véritable, au lieu que pour saint Augustin, les sacrements du Christ échappent pour une part à l'Église qui les célèbre. C'est vrai du moins pour le baptême, et nous pourrons voir si cette tension entre le pôle christologique et l'Église est susceptible d'être étendue au reste des sacrements que nous connaissons aujourd'hui, dont la notion, je le disais, n'existe pas encore précisément du temps d'Augustin. Saint-Augustin dénonce en termes très nets, et avec un certain courage, hein, la confusion théologique dans laquelle Saint-Cyprien a donné, et qui donne lieu à l'actuelle controverse avec les donatistes. Il écrit « Église, esprit, baptême ne peuvent se disjoindre entre eux », déclara Cyprien. Et voilà pourquoi ceux qui sont séparés de l'Église et du Saint-Esprit le sont aussi du baptême. S'il en est ainsi, quiconque reçoit le baptême dans l'Église catholique reste baptisé aussi longtemps qu'il reste lui-même dans l'Église. Mais s'il abandonne l'Église, il abandonne aussi son baptême. Or, il n'en est pas ainsi, dit saint Augustin. Il n'en va pas ainsi et il importe en effet de distinguer deux principes que vous voyez ici, celui du baptême d'une part, celui de l'Esprit-Saint et de l'Église animée par cet Esprit-Saint d'autre part. Et saint Augustin poursuit son propos en ces termes. En effet, au retour de celui qui a quitté l'Église, le baptême ne lui est pas rendu, car en s'éloignant, il ne l'a pas perdu. Ainsi en est-il de l'Esprit-Saint que les fils bien-aimés possèdent, mais non les fils mauvais qui ont pourtant le baptême. Ainsi en est-il de l'Église que les catholiques possèdent, mais non les hérétiques qui ont pourtant le baptême. En effet, l'Esprit-Saint, notre Maître, fuira celui qui agit avec feinte, et pourtant le baptême ne le fuira pas. Ainsi, comme le baptême peut exister même là d'où se retire l'Esprit-Saint, le baptême peut-il exister même là où n'est pas l'Église. Une des marques de la présence de l'Esprit-Saint, c'est précisément l'attachement que l'on garde en dépit de tout pour l'Église dans son unité. Saint Augustin, qui a pu se tromper touchant la doctrine des rapports entre baptême et Église, aux yeux de Saint Augustin, s'avère un maître indépassable en fait d'amour de l'unité ecclésiastique. Saint Augustin, dans son traité, n'a de cesse de vanter sa conduite, la conduite de Cyprien au concile de Carthage en 256. Il a certes prétendu justifier les nouveautés qu'il introduisait dans son diocèse, le rebaptême, contre la coutume d'admettre sans baptême les hérétiques repentis. Son prestige était tel que nombre d'évêques ont imité le métropolitain, comme on dirait aujourd'hui, mais tel est son respect religieux pour la dignité épiscopale en faveur de l'unité de l'Église que Saint Cyprien n'eut garde alors de prétendre imposer ses vues à ses frères évêques. « Tout évêque, déclara-t-il, et c'est cité par Augustin, en vertu de sa liberté et de sa puissance, possède son jugement propre. Il ne peut être jugé par autrui, pas plus qu'il ne peut juger lui-même autrui. » Saint Augustin remarque que Saint Cyprien alors ne faisait qu'imiter la douceur du prince des apôtres. Saint Pierre ayant consenti d'être repris par Saint Paul, le dernier des apôtres, sur le sujet de la circoncision à imposer ou non aux païens. Le grand évêque de Carthage déclara accepter publiquement d'être corrigé lui-même à l'avenir. Alors, Saint Augustin fait remarquer que Saint Cyprien, avec de telles dispositions, pouvait encore porter plus loin son amour de l'Église, et il aurait sans doute chéri son unité dans la plus haute expression de cette unité, à savoir un concile plénier, celui qui s'est célébré, bien après sa mort, à Nicée, 70 ans plus tard, hein, et là les vues de Saint Cyprien furent condamnées. Hein. Saint Augustin répète qu'il s'agit d'un concile plénier, distinct par là des simples conciles africains. C'est l'expression de ce qu'il appelle la catholica. Hein. Les évêques condamnèrent cette discipline de Saint Cyprien, disais-je, celle d'un deuxième baptême conféré aux chrétiens déjà baptisés dans l'hérésie. Dès lors, c'est la discipline de Saint Cyprien qui est déclarée hérétique aux yeux de l'Église, avant d'être reconnue hérétique quelque temps après par l'État lui-même, avec les conséquences civiles qui s'en suivent. Ainsi, les donatistes qui se prévalent de l'autorité de Saint Cyprien l'imitent dans une erreur. Mais ils n'imitent pas, hélas, sa sainteté. Cette sainteté qui s'est révélée dans l'amour constant que le grand évêque a marqué pour l'Église. L'attachement pour l'unité de l'Église est certes la marque indubitable de la présence dans l'Église et ses fils de l'Esprit-Saint. Et partant, cet attachement pour l'unité de l'Église est une condition du salut. Saint Augustin écrit à propos du centurion Corneille, acte 10, « Païen, il mérita par ses prières et ses aumônes l'envoi d'un ange vers lui. Il mérita de voir cet envoyé qui aurait pu, sans l'approche d'un homme, lui enseigner tout ce qui était nécessaire pour le salut. Mais tout ce que lui avait valu ses prières et ses aumônes ne pouvait lui profiter sans le lien de la charité et de la paix du Christ » qui devait l'incorporer à l'Église. Inversement, le baptême reçu hors de l'unité ne remet pas le péché. Cette rémission nécessaire au salut n'intervient que par la conversion à l'unité catholique. Cette condition est si nécessaire pour le salut qu'elle n'est pas loin parfois d'apparaître comme suffisante. Là, c'est pas notre théologie, mais en tout cas, c'est ce qu'insinue Saint Augustin de la manière la plus paradoxale, puisqu'il se fonde sur l'exemple même de Saint Cyprien. Saint Cyprien, qui voulait donner le baptême aux chrétiens baptisés dans l'hérésie, n'a pas pourtant exigé que cette discipline fût rétroactive. Ceux qui, cette discipline, avaient été admis dans la communion catholique sans être rebaptisés. Aussi bien, selon ces principes, ceux qu'avant lui on avait admis dans la communion catholique après leur repentir n'avaient pas le baptême, si on est conséquent avec ce que dit saint Cyprien. C'est donc que saint Cyprien considérait que leur appartenance à l'unité ecclésiastique, à l'unité catholique, supplée le baptême qu'ils n'ont pas. Il pensait que ceux qui avaient été admis sans qu'on les rebaptisât pouvaient, grâce au lien de l'unité, obtenir même le pardon. Le Seigneur chérit assez ce lien de l'unité et de la paix pour s'adoucir en faveur de cette paix et pardonner les fautes commises dans l'erreur à ceux qui offrent le sacrifice de cette charité qui couvre une multitude de péchés. Il suffit d'être dans l'Église qui a la charité et de vivre selon cette charité qui repose dans l'Église pour obtenir ce pardon des péchés par d'autres voies finalement que le baptême. C'est très étrange quand même aujourd'hui de lire ces lignes. En tout cas, c'est l'unité ecclésiastique porte ici les fruits que le baptême est censé procurer. C'est tout à fait singulier, cette affirmation. En rapport... excusez-moi, je m'interromps, vous me suivez quand même, c'est assez clair ce que je raconte. Bien. Alors, en rapport, bien sûr, avec la polémique contre les schismatiques, l'attachement à l'unité catholique est ici relevé comme gage de la présence chez le chrétien de l'Esprit Saint de charité. Mais saint Augustin indique qu'il y a d'autres manifestations de la charité chez ceux qui demeurent dans le sein de l'Église. Ce sont les œuvres de miséricorde. Il relève que nombre de catholiques fidèles par ce côté de l'unité ecclésiastique manquent à pratiquer ces œuvres de miséricorde et qu'ils sont adonnés au vice. Il les compare à des balles de blé qui restent sur l'air que le Christ, d'après la prophétie de Jean-Baptiste en Matthieu 3, 12, viendra émonder. Il viendra séparer le bon grain de l'ivraie au dernier jour parmi cette ère qui symbolise l'espace de l'Église et qui mêle le grain et la balle. Or, la condition de ces mauvais catholiques qui sont comparés à cette balle qui est restée sur l'aire de l'Église du Christ, la condition de ces mauvais catholiques n'est pas différente de celle des balles que le vent aura éloignées de l'air, c'est-à-dire les dissidents. Il est certes assez audacieux, je trouve, dans un ouvrage de controverse, de mettre ainsi en avant l'impureté qui réside dans son propre camp. Et c'est vraiment là un point essentiel pour Augustin que de relever ce mélange de bon grain et d'ivraie comme étant essentiel au mystère de l'Église, en même temps que l'interdit que le Seigneur fait à l'Église visible d'opérer aujourd'hui le discernement du bon grain et de l'ivraie. Car l'Église de ce temps n'est pas ce que saint Augustin appelle la colombe, qui est une autre figure de l'Église, image qu'il reprend du Cantique des Cantiques. Ainsi, le fiancé du poème, figure du Christ, désigne-t-il sa fiancée, figure de l'Église, sans tache ni ride, qu'il est seul à distinguer. Il la désigne, disais-je, comme une colombe. Unique est ma colombe, ma parfaite. Et lui seul, le Christ, voit quelle est cette Église des élus. C'est à lui seul qu'appartient ce discernement que les chrétiens n'auront garde en ce temps de prévenir. Aussi bien, écrit-il, beaucoup de ceux qui sont ouvertement hors de l'Église et portent le nom d'hérétiques aujourd'hui valent mieux que beaucoup de bons catholiques. Ce n'est pas le sens que nous attachons spontanément à ce terme, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui, nous le voyons, ce qu'ils seront demain, nous l'ignorons. Un bon catholique peut devenir un mauvais chrétien et un hérétique peut devenir un bon catholique et mourir dans cet état, de sorte que les conditions seront renversées. Donc ne nous hâtons pas d'identifier la colombe, c'est-à-dire ceux qui sont prédestinés au salut. Hein, cela n'appartient qu'à Jésus-Christ. Cette vérité qu'Augustin invoquera sans cesse dans la polémique contre les Pélagiens pour nous dissuader de nous fonder sur nos mérites actuels, car tel est saint aujourd'hui qui peut demain tomber dans le péché et inversement, cette vérité, disais-je, répond ici à une autre fonction que dans la polémique contre les Pélagiens. Les donatistes se prévalaient d'être l'Église des purs par leur attachement aux martyrs, victorieuse non seulement des persécutions de l'Empire païen, mais aussi des séductions de l'État chrétien, séduction à quoi les catholiques avaient succombé à leurs yeux. Bon, saint Augustin a par ailleurs beau jeu d'insinuer que cette Église donatiste des purs est un mythe, une histoire forgée pour servir leur cause, car il y eut des donatistes qui livrèrent les livres saints. Par ailleurs, leur communauté admit sans baptême les maximianistes, donc les partisans de Maximien dont je vous parlais au début, alors qu'elle les avait proclamés hérétiques. Saint Augustin garde sans cesse cette pensée du jugement dernier, ce jugement qui appartient au Seigneur seul. Et cela est la modestie à quoi cette pensée convie l'Église aujourd'hui. Et c'est à la lumière de cette grande vérité qu'il convient de goûter certaines formules qui laisseraient autrement à penser que le baptême catholique serait la propriété de l'Église catholique aujourd'hui. Il peut y avoir quelque chose de catholique hors de l'Église catholique, écrit-il. Parce qu'on peut, on peut utiliser cet argument dans tous les sens. Je me souviens, il y a quelques mois, j'étais invité par un imam dans une mosquée clandestine à Paris. Alors, il me parlait pour parler de Dieu. Bon. Et alors, il me dit à la fin, mon frère, tu es musulman dans une certaine mesure. Je dis, je lui dis, mon frère, c'est toi qui, à mes yeux, est catholique, par certains côtés, parce qu'on peut... Voilà. Il donne... Saint Augustin donne à entendre, à travers diverses images bibliques, que c'est l'Église qui, unie au Christ, engendre des fils par le baptême qu'elle possède en propre, même dans les communautés qui se sont séparées. Et on a l'impression parfois que, à lire Augustin, que l'Église étendrait ainsi son majestueux empire jusque chez les hérétiques et en dépit des hérétiques. Car en baptisant d'un baptême matériellement conforme à celui qui se pratique dans l'Église, ils ont volé les biens de l'Église, mais ces biens, et c'est bien fait pour eux, leur sont inutiles et même funestes quant au salut, puisqu'en blasphémant la sainteté, parce qu'ils blasphèment la sainteté du baptême par leur dissidence. Chez ceux qu'ils baptisent, les donatistes guérissent certes la blessure de l'idolâtrie ou de l'infidélité, mais il leur inflige une blessure plus grave, celle du schisme. Or, il ne faut pas lire les choses comme ça. En dépit du sentiment que le baptême serait relatif à l'Église, dont la communion semble même pouvoir suppléer le baptême, on l'a vu, en vue du salut, l'institution du baptême par le Seigneur Jésus manifeste, dans cette union de l'Église à son époux, le primat de cet époux. Le tort de Cyprien, expose Augustin, est d'avoir confondu le sacrement et ses effets salutaires. Et ce sont les effets du baptême elle-même et non pas simplement les effets de l'Esprit Saint. Là où ces effets de salut ne sont pas manifestés, comme c'est le cas dans le schisme ou dans l'hérésie, le sacrement de baptême existe néanmoins, de même qu'il existe chez les mauvais catholiques qui n'ont pas l'Esprit Saint. Le baptême est-il directement salutaire? C'est ce qu'affirmera la doctrine thomiste plus tard. Il procure le pardon des péchés, mais ce pardon est comme immédiatement rejeté par l'attachement que le sujet marque pour son péché, en l'occurrence ici le schisme et l'hérésie. Saint Augustin n'exclut pas cette hypothèse que le baptême remet directement et immédiatement les péchés. Il y a un rapport qu'il établit avec la parabole en Matthieu 18 du débiteur à qui son maître remet une dette énorme, mais qui perd aussitôt ce bienfait du pardon et de la remise de dette parce qu'il s'est montré impitoyable envers son propre débiteur. Cette interprétation rend hommage à la miséricorde du Seigneur. Dans la collation du baptême à un pécheur non repenti, il faut voir plutôt, écrit saint Augustin, la générosité du Christ qui a donné à une âme adultère et courant après ses amants son pain, son vin, son huile et tout le reste. Mais encore un coup, saint Augustin ne tranche pas en faveur de cette interprétation. Ce qu'il affirme, c'est que dans l'hérésie, on reçoit le baptême et non pas la rémission salutaire des péchés, et qu'au contraire, l'attachement à l'hérésie, on l'a dit, est un blasphème contre le baptême. Qu'est-ce donc alors que le baptême? C'est essentiellement et immédiatement l'incorporation à Jésus-Christ, à son humanité, à son corps d'humanité. Et c'est médiatement uniquement, l'incorporation à la vie divine, moyennant la grâce de la charité, manifestée premièrement dans l'attachement à l'unité de l'Église catholique et conjointement dans le progrès qu'on fait vers la perfection chrétienne. Le paradoxe est que le baptême du Christ est une réalité vivante dans un être qui peut très bien ne demeurer qu'un membre du Christ, mais un membre mort. Quand il pêche mortellement dans le schisme, l'hérésie, ou quand il pêche mortellement contre les mœurs chrétiennes. Un membre mort, ou du moins d'une vie languissante. Et cela chez ceux qui reçoivent le baptême, comme chez les ministres qui confèrent le baptême. Ils reçoivent et donnent le baptême, bien qu'ils soient morts, en eux reste vivant le baptême de celui qui ne meurt pas et que la mort ne dominera plus. Ainsi, la doctrine catholique touchant le baptême vaut-elle proclamation de sa foi dans la seigneurie triomphale du Christ ressuscité? Et saint Augustin s'abstient de relever l'humiliation aussi du Christ, quand même marquée par cette négligence des humains à recueillir les fruits de vie contenus dans son baptême. Pour lui, cependant, pour saint Augustin, la célébration même du baptême donne des marques visibles de cette seigneurie du Christ, non pas tant le rite lui-même que les paroles que l'Évangile rapporte de la bouche même du Seigneur Jésus pour le baptême. Le contenu d'abord de ces paroles. Le pape Étienne avait fait observer que l'invocation du saint nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à la demande expresse du Seigneur, ne pouvait pas être vaine. Mais aussi le rapport du ministre à ces paroles, qui ne sont pas les siennes propres, mais les paroles du Seigneur. Et il ne fait rien d'autre, ce ministre, que de prêter sa voix à des paroles qui ne sont pas les siennes, tellement que la vertu propre de ces paroles est indépendante des mérites ou démérites du ministre. Le baptême du Christ doit être reconnu et approuvé, non d'après les mérites de ceux qui le donnent, mais d'après les mérites de celui dont il a été dit par saint Jean, « Voilà celui qui baptise ». Quant au baptême du Christ, consacré qu'il est par les paroles de l'Évangile, qu'il soit donné par des adultères et à des adultères, il reste saint, bien que ces gens soient déshonnêtes et impurs. Il compare cela à la lumière du soleil qui n'est pas souillée par la boue qu'elle éclaire. En outre, dans l'ordre des paroles, s'affirme cette indépendance du domaine du baptême par rapport au domaine de l'Église. Cette dernière peut ne pas bien exprimer sa foi. Le sujet lui-même ne peut avoir une conscience qu'imparfaite de ce qui lui est donné à vivre, surtout dans la pratique de l'époque où on vous baptisait d'abord et on vous donnait l'instruction de ce que vous veniez de vivre. L'instruction, disais-je, pendant la semaine, l'octave de Pâques, hein, jusqu'au dimanche in albis, puisque pendant toute cette semaine, les nouveaux baptisés gardaient les aubes et les déposaient dans le dimanche in albis deponendis. Hein, voyez. Donc c'était et ce temps était un temps de catéchèse baptismale, mais on plongeait d'abord et donc parce que on gardait pour garder au baptême sa majesté, eh bien on ne dévoilait pas l'entièreté du mystère du baptême. Ce n'était qu'au lendemain du baptême que l'on expliquait tout, autant qu'il est possible, bien sûr. Alors, dit saint Augustin, les paroles précises de l'Évangile sans lesquelles on ne peut célébrer le baptême ont une telle puissance qu'elles effacent tout ce qu'une prière mal composée contient de contraire à la règle de la foi, tout comme le nom du Christ suffit à bannir le démon. Vous voyez, c'est pour Augustin quelque chose de profondément mystérieux que le baptême. Ce baptême qu'on a en soi, mais qui vient de plus loin que soi, sur une réalité sur laquelle on ne peut pas mettre la main, dont ma volonté ne saurait disposer, alors que la vie de la grâce en soi intéresse directement ma volonté et ma liberté dans ma participation à la volonté et à la liberté divine. C'est ça, la vie selon l'Esprit-Saint. C'est une vie qui mobilise ma volonté, ma liberté en vue de la vie divine. Mais le baptême, c'est autre chose. Le baptême en soi, c'est autre chose, puisqu'il n'intéresse pas directement ma liberté. Dans cette question du baptême, il ne faut pas regarder, écrit Augustin, la personne qui donne, mais ce qu'elle donne, ni celle qui reçoit, mais ce qu'elle reçoit, ni celle qui possède, mais ce qu'elle possède. Et saint Augustin, opportunément, signale la pratique bien répandue désormais dans l'Église du baptême des petits-enfants, Autant l'effet du baptême dépend, dans le cas du baptême des adultes, de la volonté de ces adultes et de l'usage qu'ils feront de ce don de Dieu, autant, chez les enfants, le don prévient l'exercice de la volonté. En conclusion, je désire relever cette mystérieuse sainteté du baptême pour Augustin. On est frappé, enfin moi j'ai été frappé, du refus d'Augustin de justifier ce mystère du baptême. Et il évite vraiment de le réduire à quelque rationalité que ce soit. Il y a quelque chose de magique, hein, si vous voulez. Il diminue autant qu'il est possible l'engagement du ministre. Ce ministre qui ne fait que prêter sa voix à ces paroles mystérieuses. Mais pour un saint Thomas, le fait de prêter sa voix relève d'une véritable causalité et donc est peut-être justifié en raison. Le ministre est véritablement l'instrument de l'œuvre divine qui s'accomplit à travers l'humanité du Christ. L'engagement du ministre est certes réduit à bien peu de choses chez Thomas d'Aquin. Vouloir faire ce que veut l'Église. Il est un simple instrument, un instrument animé, mais il n'a pas d'autonomie, si vous voulez. Il est aussi peu autonome en ce mystère qu'est l'esclave, à quoi il est comparé par saint Thomas. Mais il agit comme ministre de l'Église visible, institutionnelle. Et l'Église est assurément unie au Christ, un des principes de cette causalité instrumentale, puisque c'est elle qui confère le pouvoir de célébrer validement les sacrements, au moins pour certains d'entre eux. Au lieu que chez saint Augustin, ce n'est pas l'Église visible et institutionnelle qui agit dans le baptême en union avec le Christ, mais c'est l'Église des élus, unie à son époux, celle qu'il appelle la colombe. C'est une réalité qu'on ne voit pas. Hein, n'est connue que du Christ lui seul. C'est elle, la colombe, qui baptise en union avec le Christ. Il est vrai sans doute que saint Thomas rappelle que quelqu'un d'autre qu'un ministre ordonné, et même un infidèle, peut donner validement, à titre extraordinaire, le baptême à qui le demande. Mais c'est une disposition qui a égard à la nécessité du baptême pour le salut de l'homme, et où il y a précisément l'intention de faire ce que veut une Église à laquelle pourtant l'infidèle n'adhère pas, mais il veut rendre service à son ami. Au lieu que saint Augustin considère sérieusement la validité d'un baptême donné par un acteur sur le théâtre ou reçu dans la feinte sans intention de le recevoir. Ça peut pas vous souvenir à cas d'école, mais je veux dire, trouvé presque en présence d'un cas d'école, lors de ce cas d'école, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui était d'une famille catho, mais on n'avait pas baptisé, on n'avait pas instruit dans les vérités de la religion, et alors qu'il y avait des curés et des bonnes sœurs dans cette famille, et un jour il va voir sa tante. Et qui était un peu cinglé, hein. Alors il lui dit, t'es pas baptisé, ben non. Est-ce que ça te ferait plaisir d'être baptisé? Pourquoi pas? Alors il lui balance un seau d'eau qui était à proximité, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça lui a fait une drôle d'impression. Et cette idée qu'il avait quelque chose en lui sur laquelle il ne pouvait pas mettre la main, c'était vraiment ça. Alors il l'a engagé. Est-ce que je suis baptisé? Il n'y avait pas. Et là, c'est comme ça qu'il a rencontré plein de curés, qu'il a fait des accompagnements invraisemblables. Enfin bon, ça l'a beaucoup travaillé, hein, manifestement. Voilà. Mais pourtant, il allait chez là où les Tourcaises, il était chez un ami curé. Et c'est pas pour autant qu'il allait à la messe. Il était. Mais enfin, j'espère que ça va. Je vais le revoir bientôt. Je verrai ce qu'il en est arrivé. Mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de là dans qui rappelle cette théologie du baptême selon Augustin. Alors, il faut rappeler que la notion de sacrement n'en est encore qu'à ses débuts. Elle aboutira quelques siècles plus tard à la canonisation du septenaire sacramentel. Le modèle que je vous ai décrit du baptême, où c'est la parole reçue du Seigneur qui est décisive, indépendamment même de la sainteté du ministre qui est au service de cette parole, eh bien, ce modèle n'était pas, à l'époque d'Augustin, étendu à tout ce que l'on appellerait aujourd'hui sacrement, en particulier l'imposition des mains pour réconcilier à l'Église catholique les hérétiques et les schismatiques repentis, n'avait pas d'efficacité par elle-même, à la différence du sacrement de pénitence aujourd'hui, mais il n'y avait d'efficacité que à la prière de l'Église, voyez. Ce n'était pas un acte direct du Seigneur, mais c'était le Seigneur qui exauçait la prière de ses saints. Mais je trouve que le grand mérite du débaptismo est dans cette tension qu'il s'attache à manifester entre, d'un côté, les sacrements de l'humanité du Christ et, de l'autre côté, l'Église visible et instituée. Par là, celle-ci se trouve constamment avisée qu'elle n'est pas l'Église du ciel et en même temps qu'elle n'est pas conforme aux sociétés séculières, aux États. Dans les États, ce qu'une autorité a pu faire avec une parole performative, comme on dit aujourd'hui, la même autorité peut le défaire. Mais on utilise ce modèle de la parole performative à propos des sacrements, ça va jusqu'à un certain point, mais il y a toujours un os. L'Église ne peut pas débaptiser. Et là, un jour, il y avait une expérience analogue. Il y avait je suis toujours en cette tenue, hein, mais même dans la rue, il y a quelqu'un qui m'aborde et qui m'agresse, dit parce que il a voulu se faire débaptiser. On lui a répondu que l'Église ne débaptisait pas. Alors ça a été une polémique invraisemblable dans la rue. Les gens s'attroupaient, mais enfin, vous voyez, c'est on a l'intention de, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Maintenant, il voulait. Alors, c'était vraiment ressenti comme une attaque à la liberté. Et finalement, il y a quelque chose dans le baptême qui échappe à la volonté. Hein, c'est ça, à la volonté humaine. Et ça, c'est insupportable. Ou alors, c'est très bien. Voilà. Alors, elle ne peut pas faire que les espèces eucharistiques ne soient pas, comme telles, le corps du Christ. Elle ne peut pas faire qu'un mariage validement célébré ne représente l'union indissoluble du Christ et de l'Église, en dépit des pressions que l'Église peut recevoir de la part des souverains dans l'histoire, et puis maintenant, c'est le peuple qui est souverain, alors bon, c'est plus compliqué. Donc, même dans le cas de sacrements célébrés par un ministre de l'Église et dépendant de sa juridiction, le dispositif sacramentel échappe pour une part à la juridiction de l'Église, même pour ceux pénitents, pour les sacrements pénitence et mariage qui exigent ad validitatem un mandat ecclésiastique. La proclamation de la Seigneurie du Christ impose à l'Église de reconnaître que les gestes et les paroles sacramentelles lui sont pour une part indisponibles. Le débaptismo repose en effet sur la tension entre deux citations de l'Évangile matériellement contradictoires citées dès le livre 1 « Qui n'est pas avec moi est contre moi » et qui n'amasse pas avec moi disperse, dit Jésus. Cela s'entend, dit saint Augustin, du rejet de l'Église par les hérétiques et les schismatiques. Mais il y a cette autre parole, « Qui n'est pas contre vous est pour vous », dit Jésus à ses apôtres. « Personne ne peut faire quelque chose en mon nom et parler mal de moi. » Et il rapporte cela au baptême qui est présent chez les hérétiques et les schismatiques, en dépit de l'Église elle-même. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Je vais utiliser toute l'heure.
S'il y a quelques questions très rapides, on pourrait reprendre.
Éventuellement, ce serait juste une interrogation sur des choses que je connais assez mal, mais quand vous avez parlé de la balle de blé dans l'air, ces réalités, l'Église terrestre, réalité absolument bénie, voilà, de pécheur et de juste, dans quelle mesure voilà, ces arguments dans la polémique antidonatiste annoncent déjà des choses dans la cité de Dieu, ou des choses comme ça, enfin, on reprendra sur les rapports entre...
Ah bah oui, ça a toujours été lu, hein, ces traités donatistes, et le De Baptismo en particulier, comme un galop d'essai de saint Augustin à sa réflexion ultérieure sur la cité de Dieu. Hein, oui, oui. Oui, oui, c'est vraiment ça. Oui. Mais ce sera systématisé plus tard. Hein.
On a d'autres questions.
Mais du coup, sur les histoires de vin, ça n'a pas de sens. Mais du coup, le consentement du baptisé n'a pas vraiment de portée dans tout ça non plus.
Eh bien, oui, c'est vraiment la question. Hein. On n'a pas... c'est pas encore la théologie du baptême que nous développerons pour le baptême d'adulte. Je m'avance peut-être beaucoup à des baptêmes d'adultes, encore que c'est en train de beaucoup diminuer à l'époque d'Augustin. Mais voyez cette question du consentement, elle est aujourd'hui au cœur de notre de la théologie des questions sur le baptême. Voilà, la réaction de ce monsieur dans la rue est très significative. C'est quelque chose, c'est un héritage que je n'ai pas voulu. C'est un bien. Alors saint Thomas précisera par la suite c'est la portée de ce don. Qui est encore très fait aux enfants qui n'ont pas de volonté formée, mais qui est vraiment, à lire saint Augustin, très mystérieux. Bon, ça, c'est, le fait qu'il y a des... Alors évidemment, le consentement existe dans le baptême des petits-enfants, puisque ils sont baptisés dans la foi de leurs parents, l'Église faisant précepte à l'Église, aux chrétiens, de baptiser leurs enfants dès leur plus jeune âge. Hein? Voilà. Donc, mais c'est pas un consentement de la personne. Et puis, voyez, même si aujourd'hui, par ce biais du consentement des parents qui reste quand même problématique à l'âge adulte. On essaye de rationaliser, de diminuer, si vous voulez, le scandale d'un don de Dieu qui me prend presque en dépit de moi-même. Hein? Il y a les cas célèbres des affaires Mortara et Finali. Hein, dont on a fait, il y a eu, Et puis on allait faire un film là-dessus, là, sur l'affaire, l'affaire Mortara. Voilà, c'est les. Tout le monde connaît l'affaire Mortara. Non, c'est. Oui, c'était dans les États pontificaux au milieu du 19e siècle. Il y avait une famille juive qui avait une servante catholique. Et l'enfant, un enfant nouveau-né de cette famille, était très malade, il était en danger de mort, et la servante a fait ce que commande l'Église en cas de danger de mort, de procurer le salut du Christ par le baptême. Donc c'était pas et ça c'est vraiment une discipline ecclésiastique qui demeure encore aujourd'hui. Si on croit que véritablement le baptême est le sacrement du salut, bien c'est un acte de grande charité de baptiser les enfants dont il n'y a pas surtout quand il n'y a pas d'expérience fondée qu'ils vivent. Et il se trouve que l'enfant a survécu. Et qu'a fait la servante? Elle a signalé la chose aux autorités ecclésiastiques qui étaient confondues avec les autorités civiles, puisqu'on était dans les États pontificaux, de sorte que l'éducation de l'enfant a été. L'enfant devait être élevé chrétiennement. Donc il a été soustrait à l'autorité de ses parents. L'Église assumant son rôle de mère. Voilà. Donc c'est véritablement un scandale aux yeux des vues dont nous sommes majoritairement prévenus aujourd'hui. Hein, là, non. L'Église qui ôte un enfant à ses parents, vous vous rendez compte? Mais il se trouve que nos vues sont peut-être pas si universelles que ça, parce que l'enfant en question donc, a voulu devenir prêtre, a été un prêtre très heureux, ses parents, en tout cas sa maman, a compris quelle était la profondeur de son bonheur, hein, d'être prêtre. Il a laissé des mémoires en ce sens. Donc, y a évidemment, l'affaire fait les choux gras de tous les anticléricaux, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on voit à travers un exemple comme ça l'actualité de ce mystère du baptême, hein, qui prévient notre volonté et même la vie de notre volonté en tant qu'elle est destinée à partager la liberté de Dieu. C'est la condition ordinaire, le baptême, pour vivre selon la vraie liberté et une volonté divine. Et le paradoxe, c'est que la volonté n'a pas la main là-dessus, avec toutes les conséquences, évidemment, tout à fait étonnantes, hein, que l'on peut distinguer, mais quand on suit une affaire comme celle de cet abbé Mortara, on voit quand même qu'on s'abstient de juger quand même.
Merci beaucoup.
Merci de votre attention bienveillante. Je ne suis pas un spécialiste d'Augustin.